السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de démarrer cette année 1433 et bientôt cette année 2012 en pleine possession de toutes nos capacités physiques, mentales, psychologiques, en bonne santé donc, mais également avec la foi, avec le iman. Et le fait d'être présent pour la salat al-jum'a et de savoir qu'à la maison, notre épouse, nos enfants également accomplissent la salat, c'est déjà un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que de commencer cette nouvelle année avec la foi et avec l'espoir de clore cette année et de clore notre vie avec le iman. Mes chers frères, en islam, nous constatons que le temps passe de plus en plus vite. Et nous devenons des spectateurs, nous assistons à ces années qui s'enchaînent, à ces mois qui se terminent et d'autres qui prennent le relais. Et c'est un constat qui est fait par tout le monde. Les musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. La personne qui n'a pas le même iman que nous, il se limitera à un constat, à une analyse. Que le temps il passe vite, Mamaï. Ou alors que déjà Noël, déjà Nouvel An, déjà tel événement, il y a Pâques, il y a tous ces événements qui reviennent. Ça c'est un constat général. Les gens voient que le temps passe de plus en plus vite. Mais nous musulmans, nous savons que ce temps qui passe vite, c'est un des petits signes du Qiyam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de bénédiction dans le temps. Il n'y aura plus de baraka dans le temps. Les années vont s'enchaîner, les mois vont passer de plus en plus vite. C'est exactement ce que tout le monde constate en ce moment. Maintenant, le musulman, lui, ne se limite pas à un constat. Celui qui n'a pas iman, pour lui, il constate. Parfois, peut-être qu'il est content même. Les Noëls s'enchaînent, les moments de festivité sont de plus en plus proches. Mais pour le musulman qui constate que le temps passe de plus en plus vite, pour lui, c'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose de dramatique parce que la relation du mu'min, la relation du musulman avec le temps, c'est quelque chose d'essentiel. Soit ça nous ouvre les portes du paradis, soit Allah musta'an asal al-afia, ça nous ouvre les portes de l'enfer. La relation donc du temps pour le musulman, c'est quelque chose d'essentiel qu'il doit savoir gérer. Parce qu'une bonne gestion de son temps, incha'Allah, une année qu'il a passée dans l'adoration d'Allah, c'est une année qui le rapprochera d'Allah, qui le rapprochera du paradis, qui l'éloignera de l'enfer. Et une année qu'il a passée dans l'ignorance, dans l'insouciance, dans les mêmes péchés cumulés qu'il faisait depuis son plus jeune âge, et qu'il n'a pas cherché à corriger, à rectifier, mais c'est une année qui malheureusement l'éloigne d'Allah, l'éloigne du paradis et l'approche de l'enfer. Ça doit être ça la vision du temps du mu'min. Le mu'min doit être bien conscient qu'une année qui passe, c'est une année qui me rapproche de Malik al-Maut. C'est une année qui me rapproche de l'étape de la tombe. Et cette étape-là peut être fixée quand on aura 80, 85 ans. Ça peut être également quand on a 40 ans, 45 ans, 25 ans. Ça, Allah seul le sait. Donc, on doit bien être conscient que lorsqu'une année est terminée et qu'une nouvelle année s'enchaîne, on ne doit pas être un simple spectateur du temps qui passe, mais on doit se fixer les bons objectifs. Ça, c'est extrêmement important parce que si on ne se fixe pas les bons objectifs, on risque de passer à côté de l'essentiel et de se concentrer sur les détails. Et les détails, c'est quoi? Ce que je vais manger, les vêtements que je vais porter, le salaire que je vais cumuler, tous les bienfaits de ce monde et qui malheureusement ont pris la place dans notre cœur. Les bienfaits de ce monde qu'Allah Azza wa Jal a déjà décrété, a déjà prédestiné et qui malheureusement prennent l'essentiel de notre temps qui devient l'objectif de notre vie, alors que l'objectif de la vie du musulman c'est quoi? Ma khalaqtul jinn wal insa li et la liya'budun, l'adoration d'Allah, ça c'est l'objectif du musulman. Et l'objectif c'est quoi? C'est adorer Allah hatta ya'tiyakal yaqin, jusqu'à ce que Malik al-Maut reprenne notre âme et quand on retourne auprès d'Allah, Allah est satisfait de nous. C'est ça la vie du mu'min. Et tout ce qu'il y a autour, c'est pas grave. On le dit souvent ça. Et peut-être aussi beaucoup de gens pensent, oui, mais il y a tel problème, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Parce que tout ce qu'il y a comme problème qui gravite autour de nous, qui ne sont pas en relation avec la foi, c'est pas grave. Parce que si c'est des problèmes qui nous accablent et qu'on est patient, de toute façon on est rétribué par Allah. C'est-à-dire, il y a d'autres programmes dans lesquels on explique quelles sont les vertus des gens qui sont patients face à des épreuves. Mais ce qui doit nous toucher, qui doit nous préoccuper essentiellement, c'est notre iman et ce que je prépare pour rencontrer Allah. Parce que c'est avec les actions que j'ai accomplies, c'est avec les actions que j'ai cumulées lorsque je quitte ce dunya que je me présente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le premier objectif du musulman, la première chose qu'il doit se fixer, c'est quoi? C'est qu'il doit faire de bonnes actions. Les a'mal ou salihah. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal cite le iman, inna alladhina amanu, qu'est-ce qui vient immédiatement après? Wa amilu salihat. Il n'y a pas d'endroit où Allah demande aux musulmans uniquement d'avoir la foi en lui. Toujours la foi est accompagnée des bonnes actions. Vous allez dire que les bonnes actions, on le fait, on est là, on fait une bonne action déjà. Mais attention. Il y a l'apparence des bonnes actions, il y a la réalité des actions. Et Shaytan, lorsqu'il voit qu'il ne peut pas empêcher un musulman d'accomplir les bonnes actions, il va essayer de trouver une faille dans l'accomplissement des bonnes actions. Et cette faille, ce sera quoi? Le sentiment du devoir accompli. Je fais les bonnes actions, je suis présent à la salah. Je réponds présent chahr Ramadan. Je réponds présent à toutes les occasions. Et intérieurement, je suis conscient, ou j'ai l'impression que, ça y est, j'y suis. Ça y est, je suis le bon musulman. Parce qu'alhamdulillah, j'ai une grande barbe qui fait 30 cm. Je mets de beaux vêtements, je suis parfumé, je suis hafiz al-Qur'an. Mon papa, c'est un tel. Mon grand-père, il a construit ça. Mon arrière-grand-père, c'est de grandes familles. Mes enfants, ils font hafiz al-Qur'an, ils viennent à la masjid, etc. Je finis par me dire que, mais je suis comme un sahaba. Je finis par me dire que j'ai rempli ma mission. Comme Malik al-Maut vient, ou le veut, quand on veut, ou ça on veut. Mais il est là. Mon iman, il est là, mes bonnes actions, il est là, je n'ai rien manqué. Ça, c'est l'apparence des bonnes actions. Vous allez dire, on va dire que certainement le mu'min qui accomplit les a'mal salihah, les six piliers de l'islam, son devoir est accompli. Mais il faut creuser un peu plus loin. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre mon salat al-Jum'ah et la salat al-Jum'ah qui a été officiée par Abu Bakr al-Siddiq. Alors que c'est le même khutbah, deux khutbah, c'était deux rakat, et il n'y avait pas de différence apparente dans le zahir, dans les masa, il n'y a pas de différence. Mais dans la qualité de l'action, dans la profondeur de l'action, dans l'effet que ce ibadat avait sur les gens, sur Abu Bakr, sur Omar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, ceux qui étaient derrière eux, l'effet de cette action, de cette rakat, de cette salat, de ce ibadat, c'était un autre degré. Et qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui musulman, je peux faire mes bonnes actions et dès quand je franchis les portes de la masjid, je peux immédiatement faire les mêmes péchés que je fais depuis une semaine, deux semaines, un an, deux ans, 10 ans, 20 ans. Ça veut dire qu'il y a un blocage. Il y a un problème dans la qualité de bonnes actions. C'est pas un problème dans l'accomplissement des bonnes actions. Non, les actions, on les fait. On ne peut pas faire plus de faras que les sahaba le faisaient. 5 faras par jour. Mais dans la qualité des actions, il y a un manque essentiel. C'est comme si que nos actions sonnaient creux. Et qu'est-ce qui nous fait comprendre que nos actions sonnent creux? C'est que normalement, on donnera un exemple. Inna salata tanha anil quoi? Anil fahsha'i wal munkar. Un mu'min qui lève ses mains, qui dit Allahu Akbar, qui fait sa salat, logiquement, cette salat-là doit lui donner une telle puissance spirituelle, son iman doit atteindre un tel degré que lorsqu'il est à l'extérieur de la masjid, lorsqu'il y a les tentations, toutes les tentations qu'on connaît et qui sont autour de nous, ben ce musulman est capable de dire non. Ce musulman est capable de mettre un frein. Parce que cette salade, si elle est faite correctement, logiquement, ça doit être un frein vers les péchés. Ça doit être quelque chose qui va contenir notre nefs. Ça doit être quelque chose qui va empêcher Iblis, Shaitan, d'avoir le dessus, que les waswasa, les insufflations de Shaitan, ne pénètrent pas les cœurs. Même s'ils pénètrent, la salade et les qualités qu'il nous a accordées nous permettent de passer au-dessus des pièges de Shaitan. Ça, c'est un exemple. Alors, mais qu'est-ce qui manque de la salat? Qu'est-ce qu'il manque de l'ibada, de nos actes d'adoration d'une manière générale? Et on doit se concentrer là-dessus. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'attend pas forcément de nous la quantité. Allah Azza wa Jal attend de nous des actions qui ont de la qualité. Et deux qualités qu'on doit essayer de développer dans nos a'mal salihah, de nos bonnes actions, c'est premièrement le ikhlas, la sincérité. On va dire que oui, sincérité, ben, je fais namaz pour Allah, je ne fais pas namaz pour telle divinité ou pour... Non. C'est pas que ça la sincérité. La sincérité c'est quoi également? C'est quand je fais ma salat, je suis conscient qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis conscient que je me présente devant qui? Devant Allah Azza wa Jal. Et qui est Allah? Pour comprendre la sincérité, il faut déjà que le mu'min connaît qui est son Rabb, qui est son Dieu. C'est pas juste Allah, malentendu, parce que mon papa a donné azan dans mes oreilles, j'ai grandi avec la ilaha illallah, je fais le ramadan, je fais comme tout le monde. C'est pas que ça, mais la notion de Allah, na'oud billah, la notion de divinité, notre Rabb, est-ce que nous le connaissons? Lorsque notre prophète, alayhi salatu wassalam, il décrit, mais ça c'est des hadiths qui dépassent l'entendement. Il y a des fois on se dit, est-ce qu'on le dit ou on le dit pas? Il y a des gens qui ont parfois des limites dans leur foi qui fait que ils ne peuvent concevoir l'invisible. Alors pour eux ça fait bizarre. Mais quelqu'un qui a la conviction que tout ce qu'Allah nous a dit, tout ce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, c'est haq, il a iman dessus. Lorsqu'Allah azza wa jalla nous explique, le prophète sallam, pardon, le hadith nous explique, il nous compare, ce dunya, le monde, tout ce qu'il contient, avec le premier ciel. Notre prophète alayhi salatu wassalam donne un exemple, c'est comme quelqu'un qui prend une bague, qui l'envoie fait ardun falat. Ardun falat, c'est quoi? C'est un champ vaste, un terrain vague. C'est comme si vous allez près d'un champ de canne, un endroit qui est à perte de vue. Vous prenez une bague, vous l'envoyez. La métaphore est claire. Le dunya, tout ce qui contient, ce monde, tout ce qu'il contient, par rapport au premier ciel, c'est comme cette bague qu'on a jetée dans un champ vaste. Ça représente quoi? Rien du tout. On peut même parler de chiffres. Ça représente rien du tout. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, continue. Le premier ciel par rapport au second ciel, même métaphore. Comme quelqu'un qui prend une bague, qui l'envoie dans un champ vague. Ça ne représente rien, le premier ciel par rapport au second ciel. Et la métaphore continue, le second par rapport au troisième, quatrième, cinquième, sixième jusqu'au septième ciel. Et le prophète dit que le septième ciel par rapport au kursi, c'est la même métaphore. Et le kursi par rapport au arsh, par rapport au trône d'Allah, c'est la même métaphore. Alors, pensez, n'essayez même pas de penser. Quelle est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le hadith, le prophète explique que parmi les anges qui sont proches du trône d'Allah, il y a un ange. Écoutez bien, ça c'est un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué. Je ne vous demande pas de l'intégrer, parce qu'avec un cerveau humain, avec les mesures que moi j'ai, je connais le millimètre, le centimètre, le décamètre, je ne sais pas si ça se dit encore, le mètre et le kilomètre, je ne connais pas plus que ça. Si je parle d'année-lumière, on a du mal à comprendre. Le prophète me dit que la distance qu'il y a entre le pied, l'endroit, le pied, la plante des pieds et la cheville de cet ange, c'est une distance de 500 années de voyage. Vous allez dire que c'est un truc de malade ça? Oui mes chers frères, c'est un truc pas de malade, c'est un truc de rêve. C'est un truc de l'invisible. Parce que lorsqu'on décrit les anges, on parle de quoi là? On parle du monde de l'invisible. C'est des choses qu'on ne peut pas concevoir. Mais c'est le monde qui nous attend. On ne le comprend pas, on croit pas. Ça c'est grave, ça il faut faire bien attention. Qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, dans tous les cas, on y va. Notre prochaine destination, c'est, après la mort, c'est quoi? C'est le monde de l'invisible. Donc quand un mu'min, on revient, il fait deux rakats, il comprend, Allahu Akbar. Quand je me prosterne, quoi, ça me dit, on continue. Il y a un ange qui a été créé, depuis que le trône a été créé, jusqu'au jour de Qiyam, jusqu'à la fin du monde, lorsque toutes les créatures vont mourir, cet ange reste en prosternation devant Allah. Il n'a jamais levé son front. Et le jour de Qiyam, lorsqu'Allah annonce que les créatures vont mourir, cet ange se relèvera et dit « Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik »« Oh Allah, nous ne t'avons pas adoré comme tu le méritais. » Toute la création, cet ange est resté en sijda. Et moi, musulman, Allah me donne la possibilité de me prosterner pour les cinq salats devant lui. C'est une chance inouïe. Ça, c'est inestimable. Pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans leur cœur, qui jusqu'à leur mort ne se prosterneront pas une fois. Ya la khasara! Quel désastre, quelle catastrophe! Subhanallah, quelle vie! Pour quelqu'un qui est venu sur ce monde, sa maman lui a mis au monde. Cette personne est décédée, il n'a pas fait un sijda devant Allah. Ça c'est la catastrophe, alors que nous, subhanallah, Allah nous a donné la possibilité de nous prosterner pour les namaz faraz, sunnah, les nawafil. Donc la qualité, le ikhlas, c'est quoi? C'est quand je fais Allahu Akbar, je suis capable d'oublier tout ce qu'il y a de dunya, tout ce qui me motive, et je me dis que Allahu Akbar, je vais me mettre en qiyam, en rukou, en sujoud devant le Seigneur des mondes. Et c'est devant lui que je retourne, c'est auprès de lui que je retourne. C'est lui qui décide qui va au paradis, qui va en enfer. C'est pas Moïssab, c'est pas Mouftissab, c'est pas Cheikh al-Hadith. Les humains, j'ai manqué de respect, mais les humains, peu importe. C'est Allah qui compte. Le regard des gens, oubliez-le. Ce que les gens pensent de vous, c'est pas grave ça. Comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui gravite autour, c'est pas grave. C'est qu'est-ce que Allah pense de moi? Est-ce que Allah est satisfait de moi? Est-ce que j'ai vécu selon les ordres d'Allah? Si oui, je peux avoir l'espoir qu'Allah va m'accueillir et va m'honorer le jour de Qiyamah. Donc ikhlas, c'est dans chaque ibadah, je suis conscient que je le fais pour mon Seigneur. Je ne fais pas parce que Moulissa m'a appris à l'école dans croyance islamique ou dans Tatibul Fiqh 1, 2, 3 qu'il faut faire namaz ou faire le saum. Non, je ne fais pas parce que mon père le faisait. Je ne fais pas parce que Nana Prawala ou toi à moi si il vient pas. Là, wallah, je le fais parce que dans mon cœur, j'aime mon Seigneur, mon Créateur. Et je sais que j'ai été créé pour ça et uniquement pour ça. Et tout ce qu'il y a autour, c'est Allah qui s'en charge. La qualité qui nous manque également de l'ibadah, c'est quoi? C'est le ihtisab. Qu'est-ce qu'on est en train de donner là? Les deux recettes pour avoir un peu d'espoir que nos actions montent de niveau et parviennent un peu au niveau des sahaba. L'ikhlas, on a vu. L'ihtisab, c'est quoi? L'ihtisab, c'est l'espoir de rétribution. Littéralement, c'est espoir de rétribution. Quand je fais une salat, ça ne doit pas se limiter au salat al-jum'ah. Mais il fait du mort parce que il est musulman. Mais fait carême parce que il est musulman. C'est pas que ça. Oui, ça c'est ce qui nous motive, c'est l'obligation. Mais quand je fais une bonne action, j'ai l'espoir de rétribution. Je me figure déjà que Allah m'accordera telle ou telle chose en récompense. Allah m'accordera son paradis. Allah est en train d'effacer mes péchés. Allah est en train de m'aimer. Je suis dans une situation où je vais à Allah. Allah est en train de m'apprécier. Mes chers frères, quand nous prenons conscience, c'est des choses de base, ça booste votre amal, salih, vos bonnes actions. Et quand les actions prennent de l'ampleur, le iman décolle. Et quand le iman décolle, quelqu'un fait son salat, il pleure. Quand la personne lève ses mains et fait doigt, il pleure. Il sent la présence d'Allah. Il n'arrive plus à faire de péché. Il ne peut plus faire de péché. Parce que de son cœur, il y a la présence d'Allah en permanence. Ça, c'est Anta'aboudallah, ka annaka tarah. Adorer Allah exactement comme si Allah est devant nous. Ça, c'est le plus haut degré de foi. Les sahaba l'avaient atteint. Nous, nous en sommes très loin. On prendra un exemple. On a terminé. Il y avait tellement de choses à dire. Des contre-exemples. La salat al-jum'ah. Il est masnoun de venir tôt, de s'asseoir, de faire les dhikrullah, de lire le Coran. Parce que le jour de Jum'ah, il y a une rahma qui descend. Et le mu'min doit essayer de puiser de cette rahma qui descend que le vendredi. Mais nous, on a compris que c'est juste venir. On fait l'obligation, c'est un point de rencontre. Et il y a beaucoup de gens pendant la salat, pendant le khutbah, ils parlent, ils discutent. Il y a des gens qui vont prendre 10 minutes pour enlever leurs chaussures, pour parler. Ils vont faire le bilan hebdomadaire de tout ce qu'il y a de dunya intéressant comme pas intéressant. Ça veut dire qu'on fait la même salat que les sahaba. Nous, on a oublié c'est quoi l'essentiel. C'est quoi le rouh? C'est quoi l'âme de la salat? Un autre exemple, un contre-exemple. Vous allez dire que je suis pessimiste. C'est pas grave. Le Coran. Vous avez dit, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu abada. Je vous ai dit deux choses. Restez accrochés à ça. Vous ne serez jamais garés. Coran et ma sunna. Notre relation avec le Coran aujourd'hui, c'est quoi? C'est mon objectif, c'est que mon enfant arrive à lire. Accessoirement, l'idéal, c'est qu'il apprenne le Coran par cœur. S'il peut faire Taravi, Masjid Nouri Islam, j'en serai fier. Trois générations parleront de mon arrière-grand-père qui a fait Imamat, Masjid Nouri Islam. S'il peut gagner un concours de Coran, c'est le paroxysme. Ça, c'est, on décolle. Je vous dis que c'est un piège de Shaytan. L'apparence y est. Mais alhamdoulilah, on remercie Allah qu'on a ses ni'amas bien, déjà. Mais le prophète Al-Sam, Allah Azza wa Jalla dit, afala quoi? Afala yatadabbarun al-Qur'an. Le Qur'an a été révélé pour être lu, pour être mémorisé, pour que les gens l'écoutent, mais également pour en tirer les leçons. Le mu'min qui ne lit pas un verset du Qur'an par jour, en déchiffrant, en décryptant, en mettant en pratique, il n'a rien compris. Le sahaba, radiallahu anhu, il explique que lorsque un parmi nous mémorisait le Qur'an, la yatajawaz, il ne dépassait pas 10 lignes, 10 versets, sans comprendre le sens. Et sans les mettre en pratique. Nous avons des usines de Hufaz. Nous avons des Hufaz, c'est un ni'ma de la part d'Allah, c'est un bienfait. Maintenant, à nous de travailler la qualité, de comprendre que le Coran, c'est ma vie. Le Coran, c'est l'enseignement du mu'min. D'après vous, si Allah nous a donné un livre magnifique, qu'il a promis que ce livre restera intact, est-ce que c'est juste pour le lire? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime? On aime que les grands qaris viennent. Abdurrahman Sa'dien, y'a Hindaou, y'a tout ça. On aime qu'il vient et qu'il fait des qira'at. Et que la masjid est plein. Et qu'on dit Allahu Akbar, on crie plus fort que le qari. Pour nous, ça c'est le paroxysme. Le qari qui est venu, qui a lu, on s'est exclamé, ben on a donné le haq au Coran. Dites-moi, le lendemain d'une soirée de qira'at, y avait-il plus de monde à la salat al-fajr? Est-ce que nos femmes qui ne se couvraient pas les cheveux pour sortir, elles ont eu un retour de pudeur, de iman, de haya? Est-ce qu'il y a un changement dans les vies? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on s'est limité à un Coran spectacle, un dîn d'apparence. Il y a des choses à travailler, mes chers frères. Apprenons à travailler la qualité des actions. Ça, c'est essentiel pour que nos imans, pour que nos actions restent et pour qu'il y ait une répercussion sur nos imans, sur notre iman. Et quand le iman suit, il y a le khushu', le khudu'. Et Allah Azza wa Jal ne regarde pas encore une fois la quantité de bonnes actions. Allah regarde la qualité des bonnes actions. Un fois, personne m'a dit que Abu Bakr al-Siddiq ne vous a pas dépassé bi kathrat al-a'mal, bi shay'in waqara fi qalbi. Abu Bakr ne vous a pas dépassé, pardon, par une quantité de bonnes actions. Non, parce qu'il y avait une chose extraordinaire de son cœur, c'était son iman. Je vous citerai une anecdote. Vous savez qui c'est qui a assassiné Hazrat Ali? C'était des gens barbus, une plus grande barbe que vous. Ça existe, ça existe. Les kutub de tarikh expliquent que les assassins d'Hazrat Ali étaient des grands, des barbus. Les gens qui ont assassiné Uthman ibn Affan, c'était des qurra. Les sahaba, ils ont dit qu'on n'aurait jamais pensé que des gens qui lisent le Coran comme ça auraient pu faire comme ça. Ils avaient les mazahir al-islam. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire, bien sûr. Ça fait partie des devoirs du musulman. Mais attention, il y a le zahir, l'apparent des bonnes actions. Et puis, il faut voir l'action, elle sonne creuse ou pas. Quand on a une épreuve, on a une difficulté, est-ce que je m'oriente directement vers Allah, oui ou non? Là, ça prouve que j'ai iman, oui ou non, dans mon cœur. Et puis, la deuxième chose qu'on aurait aimé développer, c'est s'éloigner des péchés. S'éloigner des péchés, pas parce que papa, à un moment, dit à moi que mange pas pour que les harams ou bois pas l'alcool, les harams. Pas uniquement ça. Je suis conscient qu'un jour, quoi, je meurs. Je suis conscient que quand le vin me fait mon roussal, mes actions sont là devant moi. Et quand ils y sont, personne n'y tient pas seul. Quand je suis dans la tombe, les actions viennent à mon chevet dans la tombe. Quand je suis ressuscité auprès d'Allah, c'est que soit je suis avec les gens qui ont fait des bonnes actions, soit je suis avec les gens qui ont fait des péchés. Il n'y a pas une troisième issue. Et quand Allah m'appelle le jour de la résurrection, chaque personne est appelée par son nom, le nom de son père. Allah Ta'ala demandera, tel jour tu as fait telle action, est-ce que tu le reconnais? Est-ce que les anges ont mal agi, ont menti ou c'est vrai? Est-ce que ce qui est écrit dans ton livre c'était vrai? Le serviteur n'aura qu'à dire, oui Allah, je le reconnais. Et les ulama disent que maintenant, qu'il hisab faqad uzib. Celui à qui Allah pose une question le jour de la résurrection, c'est déjà un adab, parce que devant Allah, on n'a rien à dire. Qu'Allah nous accepte notre tawfiq, nous donne les qualités de iman, nous donne la possibilité de développer encore plus notre foi durant cette année. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.